Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Un plaisir renouvelé de vous retrouver ici en direct des studios de CKRL 89.1 pour vous parler 9e art, bande dessinée, et une semaine où la bande dessinée se joindra à l'événementiel, puisque l'émission de cette semaine est presque un spécial Québec en toutes lettres, donc le Festival littéraire de Québec qui cette année est dédié à la science-fiction et qui a intégré également plusieurs volets à saveur bande dessinée, évidemment notamment avec la venue de Jean-Claude Mézières, l'auteur de Valérian. On aura l'occasion d'ailleurs au cours des prochaines semaines de le rencontrer et de vous proposer également une entrevue d'une heure avec lui. Donc ce sera une très très belle occasion, nous en sommes certains, en fait nous l'attendons avec une certaine impatience également. Mais d'ici là, à courte échéance, on va plutôt axer, donc comme on le disait, sur les événements de Québec en toutes lettres, notamment deux spectacles qui s'en viennent. Il y en a un le 11 octobre prochain, c'est 1000 planètes, donc un concert dessiné, 12 musiciens, 4 dessinateurs, donc vraiment ce sera à grande échelle autour d'éléments liés à l'univers de la science-fiction et par extension ben, à l'univers de Mézières, de Valérian. Donc ça c'est le 11. Et également, donc on va parler aussi d'un autre événement qui s'appelle Motel Galactique, la calvasse de clés perdues. Donc c'est avec Francis Dernay et Pierre Bouchard autour, évidemment, vous le savez, si vous êtes un fan de BD, de leur univers qu'ils développent aux éditions Pow Pow, donc la série Motel Galactique. Donc ce sera un spectacle, l'événement installatif. Bref, je donne pas trop de détails ni sur l'un ni sur l'autre, puisqu'on aura l'occasion de les explorer. On ira en ordre chronologique, donc tout à l'heure, on recevra JF et Pierre Langevin de La Fanfarniente de la Strada. Autour de 1000 planètes, et un peu plus tard, ben Francis et Pierre seront avec nous pour parler de Motel Galactique. Donc ça, c'est le volet science-fiction de l'émission, et mes chroniqueurs, en réponse à cet élément de science-fiction, ont décidé de dédier leur chronique BD de cette semaine à l'univers du western. Je ne sais pas où ils ont fait l'adéquation. Peut-être ont-ils lu la série Far Out de Gauthier Langevin récemment. Mais bref, donc, il y aura Stéphane Gravel et Marco Duchesne qui seront également avec nous en cours d'émission pour nous partager leurs commentaires BD de la semaine. Et puisqu'on parle western, petite mention d'ailleurs, ce sera à découvrir dès le 19 octobre les nouvelles aventures de Lucky Luke, mais dans un format numérique qui va inviter le lecteur à s'impliquer activement dans le déroulement de l'histoire. Donc, je suis bien curieux de voir ça. On a parlé un peu la semaine dernière des façons dont la bande dessinée se met à l'heure du numérique, et donc ce sera intéressant de voir de quelle manière maintenant Dargo, avec une série aussi culte que Lucky Luke, ben ira justement développer cet angle-là, en plus avec la notion participative. Ça sera intéressant. C'est en avant-première en fait de la sortie papier de Cavalier Seul qui sera fait par Pennac et Benacquista et HD, comme à l'habitude dans les derniers albums. Alors on met ça dans notre pile de dossiers à suivre, mais donc je le répète, dès le 19 octobre, Lucky Luke dans un format numérique. Alors voilà pour ces petits clins d'œil, et maintenant ben, en musique, un petit extrait de la formation qui nous accompagnera au fil de l'heure. Il s'agit de la formation Exile Faker. On écoute un extrait de leur album Occam's Chainsaw, un extrait qui s'appelle Orbital Frontal Distal. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Comme d'habitude, première forêt, comme promis, dans l'univers du western à travers les commentaires BD de Stéphane Gravel, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour.
Une chance, j'ai pas changé d'idée.
Ben, il faut pas. Quand on dit son idée, elle est ancrée dans l'acier, comme Excalibur dans un roc. Et Stéphane, en fait, cette semaine, on reste un peu dans des vieux albums, dans des vieilles séries. Jerry Springs.
Écoute, il y a beaucoup de... Moi, le western a toujours été quelque chose qui me... Je sais pas si c'est mon enfance, l'idée de jouer à... de jouer aux cowboys et aux indiens quand j'étais petit, parce que c'était à la mode, là. Mais j'ai toujours aimé le western, et j'ai l'impression que ma vie, ma jeunesse a été, entre guillemets, bercée par le western, par l'arrivée des films de Sergio Leone, que mes grands frères écoutaient, puis que moi, je trouvais extrêmement fascinant. Et puis, les Européens, quand c'est le temps de faire du western, je trouve, ils sont bons. C'est-à-dire que, bon... Léoné, là, c'était quand même des westerns extrêmement particuliers qu'il faisait. Il a revu le genre. Et en bande dessinée, quand on parle de western, ben c'est beaucoup les Belges et les Français qui ont amené des choses qui ont été extrêmement percutantes du côté du western, là. Et il y en a une série parmi d'autres, mais il y en a une série qu'il faut noter et qu'il faut relire et qu'il faut revoir, et c'est Jerry Spring, parce que c'est des scénarios qui sont extraordinaires. C'est un western réaliste qui est extrêmement bien fait. Écoute, J.G. est un grand dessinateur de la bande dessinée de l'âge d'or, on pourrait dire, de la bande dessinée, là. C'est un peu dans un dessin réaliste, c'est peut-être un peu c'est un peu les gars à Franquin, c'est des contemporains, c'est des gens qui ont travaillé ensemble, c'est des gens qui ont évolué de façon un petit peu parallèle, ils travaillaient dans la même boîte. J.G. a touché à Spirou avant que Franquin ne prenne Spirou, et il y avait des personnages qui sont extrêmement fascinants, et dont Jerry Spring. J'ai feuilleté tantôt, là, je feuilletais des puis je pense que je vais m'y remettre, là, je vais les lire, parce que je feuilletais les Jerry Spring, puis je regardais la force et le caractère du dessin de J.G. et puis moi, je trouve ça extrêmement bon, extrêmement solide.
Au niveau scénaristique, autant qu'au niveau dessin, l'adéquation un peu de cet ensemble-là?
Absolument, absolument. C'est sûr qu'on est dans une BD qui, quand on tombe dans les premiers, on est dans une BD qui a été écrite dans les années 50, là. Tout de suite après la guerre. C'est sûr que notre... la perception du monde américain, la perception de l'Ouest, la perception du bien, du mal, tout ça est quelque chose qui est extrêmement différent d'aujourd'hui. Même chose quand on va lire un Tintin au Congo ou un Tintin en Amérique, par exemple.
Mais est-ce que c'est aussi violent qu'un Tintin au Congo, par exemple?
Non. Non. Puis ce qui est fascinant, c'est de voir comment le personnage de Jerry Spring est un personnage qui a pu être inspiré à quelque part d'un John Wayne. C'est John Wayne, Jerry Spring. Il y a quelque chose de John Wayne, mais il y a quelque chose de John Wayne qui va tendre vers Clint Eastwood. Et je trouve ça fascinant, parce qu'il est un peu justement charnière entre ces deux moments de western là.
Et en même temps, Stéphane, le fait que tu lances ces références là, je veux dire, même si John Wayne c'est western, ou Clint Eastwood c'est western, sont ancrés dans une certaine époque où ils ont été filmés, c'est des personnages immémoriaux, et dans un sens, même si le produit a vieilli, reste que c'est des personnages qui traversent facilement les époques par leur côté archétypal. Donc j'imagine que Jerry Spring, ça s'inscrit un peu aussi dans cette dynamique-là, si ça les chevauche.
Oui, absolument, absolument. C'est une série qui est arrêtée dans les années, me semble, dans les années 70, au début des années 70. Fait que c'est pas une série comme exemple, le lieutenant Blueberry qui va continuer, lui, à avoir des parutions encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu une BD, là, Gettysburg, de Blueberry, qui est paru il y a pas longtemps, qui est dessinée par Blanc-Dumont, qui a un dessin qui est extrêmement précis. Moi, j'en reviens pas comment on peut dessiner autant de chevaux dans une petite case, là. Et c'est aussi une BD remarquable au niveau de l'histoire, parce que là, on parle d'une guerre de sécession qui a existé, et le jeune Blueberry, dans cette guerre-là, va nous raconter ce qu'il a vécu dans cet épisode de combat, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce que j'ai appris beaucoup. Donc, tu sais, il y a quelque chose dans le western qui est un peu notre histoire aussi, que je trouve extrêmement intéressant. Mais je reviens à Jerry Spring. Il y a deux collections qui sont parues. C'est-à-dire qu'il y a la collection Tout JG, dans laquelle on va avoir tout ce que JG a fait, incluant les Spirou et Fantasio, avec les Jerry Spring. Et il y a la nouvelle collection dont le dernier ou l'avant-dernier tome vient de paraître, qui s'appelle Jerry Spring. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant de la différence entre les deux, c'est que la première édition, on avait décidé de faire les Jerry Spring en couleur, mais là, avec la nouvelle réédition, on a sorti les films noir et blanc et on n'a pas mis la couleur qui avait été mise à l'époque. Oh. Et là, on voit vraiment, vraiment toute la force et toute la beauté du trait de JG. Puis je peux vous dire que le dessin a beaucoup évolué des années 50 à aujourd'hui. S'il y en a un qui l'a fait évoluer, je pense que c'est lui, parce qu'il y a un dessin réaliste qui dépasse de beaucoup ce qui se faisait à l'époque.
Alors, pour cette raison-là, on profite de la récente collection, donc Jerry Spring, plutôt que la première, pour vraiment pouvoir, comme tu le disais, bien saisir le travail de dessin.
Oui,
de
je pense que quand on est dans des documents, entre guillemets, presque d'archives comme ça, c'est ça qu'on veut voir. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai le goût de regarder, là, la beauté du trait.
Alors, ben voilà. Stéphane Gravel, merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir.
Et on se dit à dans deux semaines.
OK.
À très bientôt.
OK, bye.
Bye-bye. Et voilà un autre petit extrait de la formation Exile Faker, pièce organelle, toujours à l'antenne de CKRL. Et ben, comme on l'a mentionné en ouverture, beaucoup d'événements BD qui s'en viennent, force oblige via Québec en toutes lettres, et on en est bien content. Et parmi les événements qui s'en viennent, ben, il y a donc 1000 planètes qui est présenté le 11 octobre prochain, 20h à l'Impérial. C'est un concert dessiné, 12 musiciens, 4 BDistes qui, si je me fie à la description officielle, vous amène en orbite dans l'univers de Jean-Claude Mézières, auteur de Valérian. Mais je n'en dis pas plus, puisque pour nous en parler, pour nous présenter tout ça, ben, on a le plaisir d'être en compagnie du BDiste Jeff, bonjour.
Bonjour.
Et du musicien Pierre Langevin, bonjour. Alors, peut-être, qu'est-ce qui vous a amené d'abord à vous lancer l'un et l'autre dans une aventure comme celle-là?
Moi, personnellement, c'est Christiane Vanney, qui est la coordonnatrice de Québec en toutes lettres, qui m'a approché avec Thomas-Louis Côté pour me proposer de faire une sorte de concert dessiné. Je crois que Pierre, avec l'Astrada, vous avez déjà, toi, fait un approche.
Oui, au printemps dernier, j'avais vu, c'est à Quasimov. Puis là, je me rappelais que avec Robert Marcel Lepage, on avait déjà joué des pièces de lui qu'on appelait Musique mécanique. Puis je dis, bon, Musique mécanique, on a une pièce que René Lucie nous a composée. On pourrait peut-être demander à Robert Marcel Lepage de composer une autre pièce sur l'univers de Asimov. Alors, j'ai écrit une belle lettre. J'ai envoyé ça à Christiane, puis
C'est là que le lien s'est fait finalement avec la bande dessinée. Donc,
oui, sur moi, il n'y avait pas de bande dessinée.
Non,
sauf que Robert Marcel Lepage est un auteur de bande dessinée aussi.
Ah oui,
c'est
toi.
Oui,
ouais, ça,
c'est,
j'en ai entendu parler, mais j'ai pas.
Tu vois, ses recueils vont être en vente. Il dessine des clarinettistes ou des musiciens.
Okay. Et j'imagine qu'il y a une dynamique aussi particulière qui s'installe du moment où il y a le dessin et la musique qui sont mis en adéquation, qui sont mis ensemble sur une scène dans un événement comme ça.
Oui, puis en même temps, ben moi, quand j'ai vu le projet passer, j'en ai parlé tout de suite à Michael puis Richard Valran, qui est mes compatriotes à la shop. Et puis, on s'est dit, bon, on va faire ça à trois. Puis en même temps, il y a Paul Bordelot qui s'est rajouté en plus dans le lot. Et bon, les principes du concert dessiné, moi, j'en avais déjà vu. J'ai pas vraiment participé. En fait, oui, c'est vrai, en Bordeaux, j'avais déjà participé à des concerts comme ça. Mais c'était pas tout à fait le même principe. C'était plus des grandes fresques qu'on dessinait. Mais c'est vrai que le côté musique avec le dessin, ça se marie bien. Là. Il y a quelque chose, il y a une dynamique qui est le fun.
Et là, tu viens de donner un indice. Tu parles, ça sera pas des grandes fresques. Ça va être quoi? À quoi ça va ressembler côté dessin?
OK. Comme concept, c'est sûr que nous, on voulait faire quelque chose d'un peu plus grandiose que du dessin noir et blanc sur des feuilles de papier. Donc, on a décidé d'y aller carrément en couleur à partir de tablettes graphiques avec des projections sur grand écran. Ce qui fait qu'on va être vraiment dans des espèces de tableaux éclatés avec de la couleur, avec du dessin, avec vraiment comme du speed painting.
Et de quelle manière, Pierre Langevin, ça cadre avec la musique que vous allez offrir?
En fait, nous, on a fait l'idée, c'était de mettre des compositions, des œuvres de compositeurs québécois. Donc, il y a des œuvres de René Lucier, Robert Marcel Lepage, Jean de Rome. Et aussi, un petit clin d'œil. Ah, et aussi, un petit clin d'œil, La Java Martienne, de Boris Vian, chantée. Parce que les paroles sont vraiment assez. Et puis aussi, un petit clin d'œil au film Le Cinquième Élément. Parce que Mézières a, donc, il y a un concert dans Le Cinquième Élément qui commence par une espèce de pièce. C'est une chanteuse toute bleue avec des tubes qui sortent par la tête. Puis, elle chante au début un aria de Donizetti. Donc, on refait cette aria-là de Donizetti, qu'on enchaîne avec une autre pièce de Nicolas Latarte. Et ça forme des tableaux, autrement dit, des tableaux d'à peu près 10 minutes. Donc, c'est ça qu'on a, on a monté ces tableaux-là. Puis après ça, les musiciens, les BDistes, ou plutôt faut dire les auteurs de bande dessinée, eh bien, ils travaillent là-dessus. C'est ça, j'ai demandé tantôt, est-ce que vous travaillez avec la musique? Ou ils disent oui, tu sais, parce qu'en plus, on fait de l'impro. Il y a un tableau, c'est de l'impro musical. Donc, ils savent pas du tout qu'est-ce qu'on...
Et vous savez pas du tout ce qu'ils vont dessiner non plus, donc...
Moi, j'en ai aucune idée. Mais je connais les thèmes, mais j'ai aucune idée.
Non, c'est ça, exactement.
OK, donc la mise en commun...
De toute façon, je ne verrai pas l'écran en arrière de moi.
Oui, parce que dans le fond, c'est un peu la grande question. Je me demandais de quelle manière on a abordé justement la création. Parce que là, de ce que j'en comprends, il y a eu une rencontre au départ pour établir un peu les thèmes, les axes. Ensuite, vous préparez chacun votre portion de votre côté. Puis là, bien, la semaine prochaine, ça va être la mise en commun.
On a quand même parlé des thèmes qu'on voulait aborder, finalement, sur quoi on allait dessiner, donc tirer de l'univers de Mézières. Et puis, à partir de ce moment-là, ce qu'on va dessiner, ben là, c'est sûr que ça va être une surprise. Même pour nous, c'était une surprise. On ne savait pas exactement ce qu'on allait faire. On a commencé à faire des répétitions, on a commencé à travailler là-dessus. On est bien avancé, là. On va être prêt pour jeudi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le produit final, on va le voir seulement le 11.
Et peut-être une idée, on a parlé d'ouverture inspirée un peu du Cinquième Élément. Est-ce que vous avez d'autres trucs à nous offrir qu'au côté thématique, par exemple? Qu'est-ce que vous avez choisi d'explorer?
Ben, musicalement, il y a des œuvres. Premièrement, Robert Marcel Lepage a écrit une œuvre qui s'appelle Les Robots, donc tirée à cause de l'univers d'Asimov, qui va être créée ce soir-là. Donc, un tableau,
un tableau pour justement faire le point sur Isaac Asimov.
Oui, c'est un peu la thématique. Puis toutes les œuvres qu'on fait aussi ont un petit côté. Tu sais, je me suis demandé, c'est quoi de la musique de science-fiction?
Est-ce qu'on va jouer la musique de Star Wars? Est-ce que t'es déclaré des années 80?
Est-ce qu'on va jouer la musique de Star Wars? Non. Mais je trouve que la musique actuelle, comme les compositions de René Lucier, qui a écrit pour le Moulin Image, entre autres, c'est des musiques, je trouve, qui ont un côté qui se prête bien à ça, au niveau de...
Oui, il y a certaines pièces qui sont très mécaniques. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut comme bâtir
Il y a un univers, en tout cas, qui nous sort. Puis même la musique classique, parce que l'aria de Donizetti qu'on fait, nous plonge dans le film Le Cinquième Élément. Donc, ça fait puis l'improvisation aussi musicale, ça va donner quelque chose aussi de totalement... inattendu. Organique. C'est-à-dire que c'est des jeux. C'est des jeux, on sait déjà que le premier jeu va être 2 minutes, 3 minutes. Mm-hmm. Parce qu'il faut que ça dure 10 minutes. Bien important. Parce que les autres, les BDistes, pardon, les auteurs de bandes dessinées, ils travaillent sur un minutage assez précis pour arriver, que tout le monde finisse en même temps. D'ailleurs, j'ai insisté pour que le spectacle soit pris en vidéo pour que nous autres, on puisse voir un peu aussi un jour qu'est-ce que ça va donner.
Ouais, c'est bien.
Oui, puis pour la création, est-ce que vous leur avez fourni une trame sonore? Parce que j'imagine qu'il y a un côté... le dessin, en fait, j'ai presque envie de parler de chorégraphie de dessin, parce qu'à quatre dessinateurs comme ça, ça va...
On se disait justement qu'il fallait scénariser notre approche aussi du dessin par rapport à ce qu'on va avoir à illustrer, parce que c'est très, très, très rapide. Hein. C'est même, on dit 10 minutes, mais il y a certains tableaux que c'est 6 ou 7 minutes. Fait que dans le fond, je parlais tantôt de speed painting, mais ça va être vraiment speed, là. Tu sais, ça va falloir qu'on descende rapidement nos illustrations. Ce qui fait qu'il faut être prêt. Faut être vraiment, faut avoir finalement tout préparé d'avance, là, la plupart des éléments qu'on va avoir à dessiner. On a une partie, là, qui est de pratique, là, qui est très, très importante avant de commencer.
Exactement. Pour pouvoir tomber aussi avec le bon trait au bon moment. J'imagine s'il y a une pièce qui a un trait lancinant à tel moment, mais faut essayer de le suivre avec le dessin.
Je sais pas si on va être aussi ferré que ça, là, dans le sens qu'on, je sais pas si on va être capable, là, d'y aller même avec le rythme, mais je pense que c'est sûr que des pièces plus rythmées, on va le sentir sur le dessin.
De toute façon, eux travaillent avec la musique. Moi, je leur ai fourni les bandes de la musique. Des fois, c'était en répétition, donc c'est vraiment à ne pas diffuser. Mais, donc, c'est sûr que ça influence au niveau rythmique, au niveau... aussi atmosphère, ça c'est genre de voir qu'est-ce que ça va donner.
Et est-ce que, parce que Pierre Langevin, on a mentionné, l'écran va être derrière vous, donc vous verrez pas nécessairement le dessin. Non. Donc comment vous allez, ça va être vraiment, dans le fond, le travail des dessinateurs de s'adapter un peu à ce que vous faites, ou à ce que vous faites, surtout pour la séquence d'improvisation, parce que vous aurez moins, il y aura moins possibilité d'interaction un peu.
En fait, il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire que chacun a son concert, eux, ils ont leur concert, faut juste qu'on partent en même temps pour qu'on finisse en même temps. Puis c'est le public qui va recevoir ça ensemble.
On peut parler d'expérience pour le public aussi, carrément.
C'est surtout une expérience pour le public. Oui. Parce que nous, ça va être, autrement dit, de jouer la musique premièrement live, là. C'est vraiment un conseil. Des œuvres sont quand même assez complexes. Et aussi de les jouer dans le bon... pas partir au mauvais tempo, parce qu'ils vont finir avant nous autres, ou après.
Et donc, on sent un peu là-dedans pour le côté créatif, puis pour le défi aussi, j'imagine, de voir justement de réussir à faire une adéquation comme ça dans des...
Oui, puis en même temps, moi, je suis un fan fini là, de Mézières. Jeune, là, j'ai dévoré les Valérien Laureline, là, puis d'ailleurs, ça paraît avec la série comme White Crows. Donc, pour moi, c'était quand on m'a proposé de participer, j'ai fait... Oui, 100%, là, je vais embarquer. Là. Donc, c'est en même temps un véritable hommage. J'ai pas de...
Donc, on essaie d'aller chercher un peu les éléments, le lexique visuel un peu de Valérien?
Oui, on a des thèmes là, qui sont tirés de l'univers de Valérien, que ce soit Point Central, que ce soit Galaxy City, que ce soit des extraterrestres. Bon, c'est vraiment là, des éléments tirés de l'œuvre. Donc, les gens qui connaissent bien Valérien Laureline vont reconnaître des dessins qu'on va faire.
La Fanfaroniente va être en costume. C'est là qu'on va s'apercevoir là, que les costumes de la Fanfaroniente sont des costumes du futur. Dans le futur, les hommes s'habillent avec des kilts jaune-orange et puis...
Clairement, en fait. Le futur de fait il y a quelques années, en fait. J'ai l'impression que dans les années 80, on le voyait beaucoup avec des espèces de couleurs un peu frappantes et le reste. Fait qu'on joue un peu avec ça aussi pour ajouter à l'ambiance.
Oui, c'est autrement dit, le côté visuel de la fanfare, il y a les bannières qui donnent le nom de la fanfare. Et on va voir nos costumes de rue, mais sur scène. Donc, ça va donner vraiment la couleur aussi.
Ça va être festif. Oui. Et surtout, je veux dire, à 12 musiciens, déjà, on vous met n'importe où, vous êtes festif, là, on s'entend.
Oui, 12 musiciens et une chanteuse. Parce que là, faut penser à la Java Martienne. Chanter. Et Gabriel Boutier qui va chanter.
Et de quelle manière, justement, on pense que ça va venir occuper un peu la scène? Parce que dans le fond, il va y avoir les musiciens au sol, le dessin en haut. Donc, ça va être une scène qui va être extrêmement pleine, j'imagine, au bout du compte.
Oui. En fait, les musiciens vont occuper, je dirais, peut-être à peu près les 8/10 de la scène, une espèce de demi-lune. Et à gauche, on va voir la table avec les BDistes. Ils sont trois à la fois, je pense.
C'est ça, c'est toujours trois auteurs.
Et au-dessus de nous, il y a un écran. Je pourrais pas te dire la grandeur, mais techniquement, c'est quand même un défi.
Oui.
Que tout marche, que tout surtout à l'environnement.
Ouais, on parle quand même d'un écran de 16 pieds là, de large. Donc, quelque chose qui va être assez intéressant.
Et Jeff, tu as mentionné tout à l'heure, en fait, donc les outre toi, il va y avoir Michael, Paul Bordelot, Richard Valeran.
C'est ça.
Donc, quand même des styles, des univers aussi dans les albums qu'on leur connaît ou qu'on espère leur connaître dans le cas de Richard. Des univers qui sont distincts. Est-ce qu'il y a union vraiment où on essaie de cultiver les différences?
C'est ça qui était important, je pense, c'était d'avoir des visions différentes, des visions des styles graphiques différents. Ça aura pas été intéressant d'avoir trois GF à côté de l'autre à faire du dessin pareil. Donc d'avoir justement ces saveurs-là, ces visions de chacun sur les écrans. C'était important que ça soit comme ça.
De quelle manière ça vient s'exprimer?
Ça va s'exprimer beaucoup dans le trait, puis dans la vision, là, dans le style graphique qu'on va avoir. Il va y avoir des choses plus humoristiques, il va y avoir des choses plus réalistes, il va y avoir des choses qui... Donc, c'est... Je n'en dirai pas plus parce que je vais vous révéler des, des bunches, mais...
Puis en même temps, on imagine qu'un style de dessin en live comme ça versus le dessin en album, c'est aussi deux
choses différentes. Oui, c'est sûr et certain. Encore une fois, c'est chacun, il va selon ce qui est le plus à l'aise. Et chaque dessinateur va s'exprimer en très peu de temps avec justement ce sur quoi ils sont les plus habiles. Donc, on va avoir autant du dessin au trait, du dessin plus en peinture, du dessin... donc, ça va être quelque chose.
Et dernière question pour Pierre Langevin. On a mentionné tout à l'heure un segment d'improvisation et subitement, je m'inquiète, à 12 sur scène, l'improvisation musicale. Les musiciens de la Fanfarniente sont d'expérience et de culture vaste et vive, mais ça doit être aussi assez ardu.
Oui, mais c'est une improvisation dirigée par Robert Marcel Lepage, avec qui on a fait déjà un atelier d'improvisation au printemps. Donc, lui, il y a quand même des jeux d'improvisation qui sont très très précis. Donc c'est lui qui dirige ça. Donc on sait qu'un premier jeu qui s'appelle il y a un jeu qui s'appelle Mesure instantanée, il y a un jeu qui s'appelle Simple Simon, il y a un jeu qui s'appelle Individu non conforme, il y a un jeu qui s'appelle État asservi. Donc c'est lui qui dirige ça. Donc il y a des consignes, on a des consignes déjà d'avance, c'est de l'impro, mais il y a comme ludique, on appelle ça musique ludique.
et tout ça devant Jean-Claude Mézières qui va être sur place également. Est-ce que ça ajoute une création additionnelle?
Ah oui, ça c'est sûr.
Surtout pour un jeune qui lit à la
main. Exactement.
On y donne les notes à la fin du spectacle.
soit il va être ému, évidemment.
On l'espère.
Et le public aussi. Je rappelle, en fait, donc c'est le 11 octobre, 20h à l'Impérial. J'imagine qu'il faut réserver.
Oui, réserver et avoir le macaron.
Oui. Donc, les deux sont importants.
C'est ça.
Donc, le 11 octobre à 20h à l'Impérial. Donc, la Fanfarniente de Strada, J.F. Richard Valeran, Paul Bordelot, Michael qui seront sur la scène, donc, de l'Impérial. Pierre Langevin de Strada, J.F., merci beaucoup à vous deux.
Merci Simon.
Et on se laisse avec un petit extrait de la Java martienne, tiens, puisqu'on l'avait mentionné tout à l'heure. Alors, on l'utilise pour nous amener vers la pause.
Du 12 au 14 octobre, pendant le festival Québec en toutes lettres, le Studio P accueille Les Enfants d'Asimov, expo vente sur la science-fiction et le fantasy. Bouquiner le fonds disponible, rencontrer des collectionneurs, assister à des tables rondes et lancements. Le Studio P est situé au 280 rue Saint-Joseph-Est. Pour plus d'informations, visitez librairiepantoute.com.
Ici Olivia Vu, je vous invite le samedi 13 octobre à écouter l'émission spéciale dans le cadre de Québec en toutes lettres, qui célèbre cette année Isaac Asimov. Dès 13h, venez vous faire enchanter l'esprit avec nos invités les conteurs Djihad Darwish et François Deveau, ainsi que l'écrivain jeunesse Rascal et Paul Duboucher, responsables de la collection musique de Gallimard Jeunesse.
Une présentation de l'Institut canadien de Québec en collaboration avec la Caisse des jardins du centre-ville de Québec, CKRL et la Ville de Québec.
Le Palais Montcalm présente les Swingle Singers le samedi 20 octobre. Phénomène international de la musique a cappella, ce septuor britannique lauréat de 5 Grammy interprète aussi bien des chansons de Björk, Bach que des Beatles ou de Sting. Soyez éblouis par leur virtuosité et leur façon inimitable de chanter. Les Swingle Singers, la promesse d'une soirée musicale inoubliable. 20$ pour les 30 ans et moins, détails au palaismontcalm.ca.
Voici les livres qui ont marqué Pantoute.
De guerre interstellaire en saga magique.
Le guide du routard galactique de Douglas Adams.
Demain les chiens de Clifford D. Simak.
Le Seigneur des Anneaux de Tolkien.
Le Trône de Fer de G.R.R. Martin.
Pantoute, votre libraire depuis 40 ans.
Les Enfants du Paradis, c'est une heure d'interviews, de commentaires critiques et de découvertes en compagnie de Robert Boisclair et de son équipe. Pour tout savoir sur l'actualité théâtrale et dansée de Québec, découvrez Les Enfants du Paradis tous les lundis soirs dès 17h30 à CKRL. Et suivez-les sur Twitter.
Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui.
Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89.1, La vie en BD. Et on porte donc des regards aujourd'hui sur l'événement Québec en toutes lettres, et notamment le 12 octobre prochain à 20h, il y a l'événement Bottel Galactique, la calvasse de clés perdues. Départ donc de la bibliothèque Gabriel Leroy pour se rendre à un motel tenu secret jusqu'à présent. C'est un projet qui nous vient des auteurs de Motel Galactique, Francis Desharnais et Pierre Bouchard, qui sont avec nous. Bonjour.
Bonjour. Salut.
Alors, tout d'abord, je me suis dit, je vous laisserais peut-être présenter qu'est-ce que c'est, donc, cet événement-là.
C'est un peu une façon de présenter l'univers de Motel Galactique. C'est une possibilité de rencontrer, de se mettre en contact avec l'univers, parce que sous une forme plus théâtrale, je dirais. En fait, l'événement comme tel, c'est qu'on prend du public, puis on l'envoie dans un motel dans le coin du boulevard Sainte-Anne. Puis là, il y a des chambres, on a loué des chambres qui vont être aménagées selon trois thèmes, je dirais. Je vais pas trop en dire pour laisser un peu de surprise, mais sous trois thèmes, ouais, c'est bon ça. Sur trois thèmes différents, puis qui vont donner un aperçu de ce que ça peut être la BD. Donc on garde le même humour, on garde le même côté très absurde, puis on rencontre les différents personnages qu'on retrouve dans la BD.
Et d'où est venue l'idée justement de faire cette transposition-là de la page vers l'événement?
C'est Francis qui a eu l'idée d'amener un projet au projet Québec en toutes lettres, qui était avec le et qui est un espèce d'hommage à Asimov, qui est un écrivain de science-fiction. Et il s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait bien. Il trouvait que ça fitait là, de mettre Motel Galactique dans ce projet-là. Et puis il nous a amené une espèce de. Ils ont proposé déjà une histoire avec un. Puis, je pense que on a aimé ça tout de suite là de transposer Motel Galactique avec Asimov.
Au même temps, j'imagine qu'il y a un peu quelque chose de déclinable dans mesure où l'univers de Motel Galactique, c'est la science-fiction du terroir. Ça se passe dans un futur qui est bisouné entre guillemets à partir de ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui fait que la transposition peut se faire, que ça devient pas c'est pas comme transposer un space opera futuriste réaliste.
Non, c'est ça. On n'a pas besoin d'énormément de budget pour adapter ça, donc ça se passe bien.
Et comment ça a fonctionné justement pour choisir un peu les concepts, les éléments qu'on voulait pousser de la BD vers justement un événement comme celui-là?
Au départ, c'était montrer bon, les personnages principaux, dont Pierre Bouchard 2.1.1, le clone de Pierre Bouchard. Fait qu'à partir de là, c'est lui qui va accueillir les gens. Mm-hmm. Puis on retrouve certains personnages de la bande dessinée qui surtout du premier tome, mais aussi on parle aussi un peu du deuxième. Puis comme par exemple, il y a une machine à échanger les pensées ou à projeter les rêves. Fait que ça, il va en avoir une. Il va avoir aussi on va pouvoir avoir accès à un genre de petit musée du futur, mais c'est ça, je veux pas trop.
Non, c'est ça, mais c'est suffit de dire dans le fond qu'on va chercher, j'imagine, des éléments, donc des bidules, des trucs, des détails, des personnages du livre dans le fond.
C'est ça. Puis après ça, il y a un côté un peu participatif dans la mesure où il va y avoir bon, ça s'appelle la calvasse de clé perdue parce que Pierre Bouchard 2.1.1 va avoir un bug avec sa clé, fait que il va avoir de quoi en rapport avec ça.
Donc on s'amuse aussi à écrire un récit spécifiquement pour l'événement.
On a aussi apporté, on a aussi donné le projet à des artistes, et à scénographe Gaël Schild, que je connais bien. Mais en fait, elle a créé des objets du futur, mais il n'y a pas eu de concertation, on n'a pas dit fait tel objet. C'est vraiment sa perception d'objets futuristes, mais aussi avec tout l'univers intergalactique qui est absurde et tout ça. Donc c'est un côté super intéressant. Et le mausolée Guy la Liberté aussi, qui est. On peut en parler, oui. C'est ça, toute la vision de d'autres personnes sur le projet, la vision des comédiens aussi sur les personnages, ça apporte vraiment des éléments nouveaux. Là.
Oui, parce que vous avez donné une certaine liberté, dans le fond, aux créateurs pour exploiter à leur façon votre univers.
Oui, ben c'est un projet qui le permet, puis c'est ça qui est le fun, parce que justement, tout le monde apporte sa touche. Justement, Gaël, ce que j'ai vu à date, là, j'ai comme laissé pas mal carte blanche, puis tout ce qu'elle fait, je trouve que ça marche au bout. C'est super drôle, c'est super bon, puis c'est beau. Fait que ça, c'est le fun dans ce temps-là, quand les gens s'accaparent cet univers-là, puis décident de flyer avec. Là.
Il va y avoir un spatio-jet sur les lieux aussi, donc on va pouvoir remarquer que c'est un vrai quatre roues à lequel on a mis des ailes, quand même. Mais tu sais, il y a tout ce côté série B là, qu'on aime bien dans... Puis qui fait un peu référence à la BD, tu sais, côté sketch, on va dire.
Ouais, puis il va y avoir aussi, Pierre, en tout cas, il me semble que tu vas faire des genres de toiles aussi.
Ouais.
Tu sais, on va avoir des dessins puis des toiles de Pierre à l'intérieur du motel. Fait qu'on sera pas perdu, on sera jamais bien loin de la bande dessinée.
Ouais. Moi, j'ai eu une commande de pinceau aujourd'hui, là. Ouais. Je faisais un portrait de Guy la Liberté. Alors, s'il y a des fans de Guy, là, il va y avoir un portrait de lui à ce moment-là.
Et en même temps, ça vous permet d'exploiter, justement, vos démarches hors BD. Bon, Francis qui a fait pas mal d'animation,
ouais,
Pierre,
ouais.
Qui est du côté des arts visuels. Donc, j'imagine que ça vous permet d'aller chercher ces forces-là aussi. En même temps, comme dans la logique où tu le mentionnais, Francis, le travail en art visuel de Pierre est dans la lignée de ce que tu fais au côté dessin dans Motel Galactique. C'est un peu le même style de trait. On sent Pierre Bouchard dans la BD aussi, dans le fond.
Ouais, c'est ça. C'est un projet qui permet, comme tu dis, d'allier toutes nos forces, puis toutes nos sidelines, on va dire, toutes nos disciplines.
Parce que c'est bon, ça.
Voilà. Et je pense que tu vas avoir un dessin animé qui va faire partie aussi de...
Ben, c'est pas tant un dessin animé, mais c'est un genre de montage.
Ouais.
Il y a Total Crap qui va avoir une petite participation dans le projet. On va pouvoir voir des extraits de Total Crap qui vont servir l'histoire, qui vont servir le projet. Là.
On avait déjà fait des références à Simon Lacroix dans le tome 1, c'est ça?
Oui, c'est vrai, en plus.
Donc, ça veut dire que ça a été assez facile d'aller chercher des collaborations, d'aller chercher une équipe autour de ça aussi.
Oui, puis c'est ça. Ben, je pense que c'est ce genre de projet qui enthousiasme le monde. Donc, ça, c'est le fun dans ce temps-là parce que... Ben, ça fait que c'est une équipe agréable à travailler. Là.
Puis au niveau des comédiens, comment s'est passé un peu la direction, les éléments? On a parlé tout à l'heure que vous donnez quand même pas mal de liberté, mais reste que j'imagine que vous aviez une vision assez précise de Pierre Bouchard 2.1.1, des autres personnages qu'on va voir en chair et en os le 12 octobre. Donc, comment ça s'est passé un peu avec les comédiens?
Ben, ça dépend.
Comment ça se passe? Parce qu'on est encore en création.
Oui, c'est ça. Ben, il y en a qui nous ont été proposés par Québec en toutes lettres, d'autres Gaël et puis Pierre en connaissaient aussi. D'ailleurs, comme Mathieu Campagna, c'est vous autres qui êtes allé chercher.
Ouais.
Puis après ça, ben ça se passe bien là. C'est je veux dire, il y a surtout le personnage de Pierre Bouchard 2.1 avec qui on a déjà travaillé parce qu'on a fait une petite annonce, une petite pub qui est sur Internet, sur YouTube. Mais c'est ça, mais c'est comme je te dis, c'est encore en work in progress. Fait que,
mais je pense qu'il y a un bon casting là, côté Pierre Bouchard 2.1.1.
Oh, ouais, il ressemble à BD. Là.
Francis m'a envoyé la photo, j'ai fait ouais, c'est bon, c'est lui.
En même temps, j'imagine qu'il y a un plaisir aussi pour vous, au-delà du plaisir de le faire, mais ça va être le plaisir de voir aussi la résultante après avoir fait deux albums, ben de voir un peu ce que ça pourrait donner en vrai. Ça pourrait être assez trippant.
Oui, tout à fait.
Un peu le sentiment d'être sur un plateau de tournage avec les personnages et tout ça. On attend le vrai film, là.
Moi, je trouve que ça fitrait au bout un film ou une série télé. Bagossé, là.
Qui avec pas de budget. Pods. Qui pourra?
Ben, c'est ça, tout ça. Toute sa gang-là.
On va inviter des réalisateurs pour voir un peu. Les décors sont déjà faits, donc, ou sont en création. Et justement, question au passage, en fait, on fait beaucoup de références à l'album, à l'univers de Motel Galactique. On disait aussi au départ, l'idée c'était quand même aussi de permettre à des gens qui connaissent pas cet univers-là de le découvrir. Donc, comment on accompagne les gens pour, bon, les lecteurs sont déjà convaincus, sont déjà conquis, connaissent déjà, mais celui qui connaît pas du tout Motel Galactique, comment on prépare son arrivée un peu là-dedans?
Je pense que ça va être assez, bing bang dindan, là. Mais, en même temps, les gens vont être accueillis par Pierre Bouchard 2.1.1, donc ils vont être qui va se présenter qui il est, le clone de qui il est. Mais c'est sûr qu'à partir de là, va falloir que les gens acceptent que bon, ben c'est un univers qui contrôle plus là. Mm-hmm. fait que c'est ça, mais je pense qu'on a fait en sorte que ça va être absurde puis éclaté, mais qu'il y a quand même des éléments auxquels les gens vont pouvoir se rattacher là. Ça sera pas juste du n'importe quoi.
Donc dans le fond, on va pouvoir découvrir l'univers si on connaît pas du tout là, assez oui, agréablement.
Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, comme mettons le musée, ben un musée, je veux dire, bon, tout le monde est déjà allé dans un musée, fait qu'il va avoir des objets, puis bon, il va peut-être, les objets vont être saugrenus, puis vont être étranges, tu sais, mais bon, c'est ça, mais ils savent c'est quoi un musée, puis bon, quand il va avoir des trucs plus pointus, il va avoir des gens pour expliquer ce que c'est, donc puis il va aussi avoir un compteur, fait que, tu sais, un compte, on a tous déjà entendu. Fait que c'est tous des éléments qui séparaient, les gens connaissent ça. Mais après ça, ce qu'on met dans ces éléments-là, ben c'est là que c'est notre univers, puis que ça part dans toutes sortes de directions.
Ouais. Ben, je pense que le monde va pouvoir avoir du plaisir tout simplement en se laissant aller dans cet univers-là sans avoir lu les bandes dessinées. Sinon, ça va on va les inviter à venir lire nos bandes dessinées. On va en vendre d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, apportez de l'argent comptant parce que il y a pas de guichet dans le coin, fait que si vous voulez acheter de la bière,
puis
oui, en fait, puis dans le fond, il va avoir service d'alcool un peu sur place. On peut avoir de l'alcool, etc. C'est une fête aussi un peu. Il y a quoi,
oui,
festif,
c'est ça. Il paraît même qu'il va peut-être même y avoir un karaoké.
C'est un motel, hein. Vous pouvez louer une chambre si vous voulez. C'est un beau coin, le boulevard Sainte-Anne, vu sur l'île.
C'est poétique, ça cadre avec la série.
Il y a une autoroute entre l'île et le boulevard, mais c'est quand même beau.
Et donc, le rendez-vous, c'est à la Bibliothèque Gabriel-Leroy, le 12 octobre à 20h, dans le fond. On dit pas le nom de l'hôtel parce que on veut que les gens prennent une navette pour s'y rendre.
Ouais, parce que l'activité commence en entrant dans la navette, en entrant dans l'autobus. Puis, c'est pas à 20h, faut réserver. Okay. Parce que il y a des départs à toutes les 20 minutes. Nous,
donc on se réserve un départ.
On se réserve un départ. C'est à partir de 20h, mais c'est jusqu'à là. J'ai plus le. Mais c'est au moins 22h.
Et pour la réservation, c'est sur le site de Québec en toutes lettres, québecentoutelettres.com.
Oui, c'est ça.
Oui, prenez la chance d'avoir une place stand-by en venant vous coller à l'autobus, mais c'est pas...
Ouais, c'est parce que l'affaire, c'est qu'on a un nombre de personnes limitées par chambre, par autobus, puis il faut qu'il y ait un roulement, fait que si c'est soldat...
Ben, on prend pas de chance, on réserve, on écoute présentement la radio, on peut aller sur Internet en même temps.
C'est un voyage, donc on réserve les billets.
C'est bien dit.
Voilà. Alors, donc, je le rappelle, on réserve, donc, en vue du 12 octobre, 20h, donc, Motel Galactique, la calvasse de clés perdue. Donc, un projet visite de Francis Desharnais et Pierre Bouchard, et est-ce que on espère le refaire si ça fonctionne bien, parce que là c'est une occasion unique pour l'instant. Mais
ben, quand Guy Laliberté va voir ça, il va triper tellement qu'il va nous donner full de cash, puis on va faire une tournée du Québec de tous les motels.
Ouais, c'est ça, on va faire des motels, on va faire des chambres là, écoute, on va inviter des artistes.
Oui, Garou va être là, ça va être
Garou. Garou qui va chanter dans l'autobus.
Francis Desharnais, Pierre Bouchard, merci à vous deux.
Merci à toi.
Et toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle, vous pouvez aller nous suivre sur Facebook, La Vie en BD. Également, on a deux blogs pour vous, voir.ca/Raymond-Poirier et lavieenbd.wordpress.com. Selon ce que vous cherchez, ben, vous trouverez peut-être quelque chose sur l'un ou l'autre. Et maintenant, après avoir fait une forêt vers la science-fiction, ben, on revient vers l'univers du western, puisque, comme je l'ai dit en entrée de jeu, mes chroniques ont décidé de se faire un spécial BD Western cette semaine. Marco Duchesne, bonjour.
Hey, salut.
Ça va bien?
Oui, merci.
Et trois albums cette semaine de ton côté.
Ben, en fait, ouais, écoute, soudainement, il pleut du Western.
Oui, on s'en plaindra pas.
Alors,
ça beau style.
Mets ton cache-poussière, selle ton cheval, on part vers l'Ouest. Et ben, moi, je pensais que moi, je suis un fan fini de Western. J'ai tout vu les John Ford, j'ai tout vu les Howard Hawks. Je suis un grand admirateur de John Wayne comme personnage, de comme cowboy. Mm-hmm. Et quand le Western est mort et que Clint Eastwood l'a enterré avec Unforgiven, le Western s'est transformé en film d'action, en film.
Mais
de...
il a revécu un peu quand même. Il y a des films comme Open Range qui retournent à vieille école un peu.
Ouais, mais quand même, c'est de petites pointes qui ont percé, mais pas assez pour dire que... Bref, et en BD, même chose. Le Western était presque... En fait, quand Jean Giraud a claqué, c'était comme... de terminer Blueberry. Il y a la jeunesse de Blueberry, mais ça, des fois, ça ressemble beaucoup à des films de guerre ou des films d'action. Pour essayer de le vendre, on le travestit, on en fait des westerns avec des zombies, des vampires ou des loups-garous. Là, ça arrive de temps en temps. Mais là, il pleut du western.
Et du vrai western.
Oui. Alors, trois titres que je vous conseille. Je vais essayer d'aller rapidement là pour essayer de vous donner, de brosser le portrait des trois albums. D'abord, Lewis Trondheim, Mathieu Bonhomme, s'unissent dans un western aux éditions Dupuis qui s'appelle Cowboy Texas. Dans un classicisme incroyable au niveau du dessin, Bonhomme qui va très rigide, avec très réaliste et tout, on a le droit à un western qui décale un peu.
À l'image de l'univers de Trondheim,
voilà.
Bonhomme, en fait, les deux appellent à ça. Là.
Voilà. Deux pas dans le classique, un pas qui décale. Deux pas dans le classique, un pas qui décale. Et une belle narration d'histoire parallèle qui finit par s'imbriquer, mais avec des flashbacks. Pas facile, faut porter attention, à lire avec une bière flat sur le comptoir et la musique du piano mécanique. Et tous les éléments, ils s'y retrouvent. La joueuse professionnelle qui, en fait, assassine des hommes qu'elle croit être ceux qui l'ont violée. Un pied tendre qui débarque dans l'Ouest et qui va faire son... En fait, c'est une BD d'initiation. on suit un Pietendre, un gars de l'Est qui débarque et qui va faire son apprentissage comme desperados, comme chasseur de primes, comme shérif. Bref, on voit son apprentissage, tout ça avec un certain humour un peu absurde.
Et Marco, en fait, récemment, si on focus sur Trondheim, les séries qu'on lui a connues, c'est Ralph Azam, c'est Donjon. Est-ce que les fans de ces deux séries-là vont se reconnaître un peu dans la forêt western qu'il fait avec Bonhomme?
Moins. Il est plus rigoureux, je pense, que dans ses autres séries. On sent l'improvisation dans les autres séries. On sent un peu le dérapage contrôlé, mais ici, c'est très rigoureux. On va, je vous le dis là, à amateurs de bonnes histoires, l'humour absurde vient égayer un peu cet univers-là, là, mais la rigueur du scénario et de l'univers western y est.
Donc un peu plus à la Black Sad, à la limite, à la,
ouais,
la Black,
ouais.
Town, en fait, j'essaie de...
Ouais, un peu, mais c'est difficile à expliquer, okay, à cause de la façon dont c'est raconté.
Mais ça vaut la peine de l'essayer.
Tout à fait. Ah oui, ah oui.
Alors ça, c'est
Texas Cowboys.
Texas Cowboys, voilà, de Trondheim et Bonhomme.
Et Bonhomme. Deuxième album, chez Delcourt. Un projet qui a parti David Chauvel il y a quelque temps chez Delcourt. Cet album indépendant qui raconte l'histoire de sept héros ou sept héros qui ont une mission ou une quête à faire. Mm-hmm. Inspiré des sept mercenaires ou des sept samouraïs de Kurosawa, les sept mercenaires, le western de Sturges, mm-hmm.
Et c'est dans la série 7 où
voilà.
Dans le fond, c'est la géométrie variable. Des fois, c'est bien, des fois,
ouais, c'est ça. Alors, les sept premiers albums, il y avait des yakuza, il y avait des astronautes, il y avait des... Bref, tout ça dans différents univers, pas de western. Vu la popularité de la chose, on a reparti un nouveau cycle de sept albums. Et là, on a eu le droit à des zombies, on a eu le droit à des missionnaires, on a eu le droit à d'autres choses. Et inévitablement, on a le droit à sept pistoleros. Un western. Et là, on nous annonce que ça sera un bel hommage au western. Et c'en est un. Sept pistoleros à la retraite vont être, leurs têtes vont être mises à prix. Ils vont se réfugier, ils vont être assiégés par une armée de Mexicains, par une armée de... Bref, c'est un western dans le pur l'art...
Dans la plus pure tradition.
Voilà, dans la plus pure tradition. Merci, je cherchais le mot. Dans la plus pure tradition. Mais le seul reproche que je lui ferais, c'est que c'est très verbeux.
Et là, tu sais... On essaie trop d'expliquer l'histoire dans un one-shot.
Dans un western, les paroles sont vaines. Il faut laisser parler la poudre.
Oui, ben un peu comme dans Léoné, en fait. C'est l'archétype,
voilà,
du western.
Et je pense
ça se transpose bien en BD habituellement.
On en a trop mis, mm-hmm, à mon avis. Mais ça fonctionne quand même. On raconte trop l'histoire des sept pistolets rouges à chacun, mais c'est pas nécessaire. Souvent, les blancs sont bien mystérieux et ça aide à la grandeur du héros, à la légende. Donc, c'est à essayer si on veut une bonne aventure comme ça, à déguster avec le mauvais whisky du saloon en écoutant une des filles chanter. Mais le dernier...
Le dernier, c'est le moyen...
C'est mon coup de cœur de la rentrée présentement. En plus d'être un western, mais c'est d'une grande qualité. Loup de pluie c'est le scénario de Jean Dufault, qui nous a habitués à des trucs historiques, ésotériques, de vampires, d'horreurs, de toutes sortes de choses. Et c'est sous la plume le dessin de Ruben Pellegiero, que j'adore avec ses couleurs brutes, avec son gros trait noir qui fait rejaillir ces couleurs-là. Les deux s'associent et donnent un album. En fait, ça va être une histoire en deux albums. On a le doigt au premier tome. Et là, tout y est. Amour trahi, amitié, vengeance, une haine entre famille riche et famille pauvre, on enlève une femme, on tue un chef indien, et tout ça là avec les couleurs de Ruben Pellegiero, qui sait manier les couleurs. Et là, à relire, parce que je l'ai relu une couple de fois, mm-hmm, hier, on le reçut hier, il vient te dire, Et j'étais assis dans mon sofa hier soir, je l'ai relu deux fois, et là je remarquais que chaque fois que Pellegrino utilisait le rouge vif, c'était pendant les scènes d'amour passion.
Ah.
Quand il utilisait le jaune agressif, c'était quand il y avait de la violence. Quand c'était tendu, c'était des ocres.
Donc, capable d'utiliser la couleur pour vraiment maximiser l'ambiance.
Oui, et tu le sens. Et Pellegrino, là, son trait est beaucoup moins épais, beaucoup moins apparent, mais il est quand même présent. Ce qui définit beaucoup ses figures, ses personnages avec ses expressions, ça transparaît avec l'émotion. Quand Jean Dufaux annonce qu'il rend hommage et les remerciements au début de l'album, il nous annonce un hommage au grand du western. C'est réussi. J'y ai vu un hommage incroyable à Howard Hawks, qui nous a donné Rio Bravo, qui nous a donné les grands westerns de sa trilogie Rio Bravo, Rio Lobo. Mm-hmm. Et j'y voyais aussi John Ford avec La Prisonnière du désert. Ses répliques, il n'y en a pas beaucoup, c'est épuré. Les répliques sont là. Mm-hmm. Et tous les éléments sont là. Et les narrateurs se succèdent. Une des femmes parle. Après ça, c'est un des... Bref.
Donc, il y a une richesse de point de vue.
Ah,
on
oui.
est capable d'aller créer à travers ces changements de narration-là vraiment un univers en trois.
Ouais,
tridimensionnel.
C'est comme les films de John Ford se passent dans l'Ouest avec des cowboys, mais souvent, ce ne sont pas des films de cowboy. Uh-huh. La prisonnière du désert, si tu te rappelles, John Wayne part à la recherche de sa nièce qui s'est fait enlever par des Indiens. Pendant 5 ans, il la cherche. Et pendant 5 ans, il parle très peu à son comparse, Martin Paulet. Il parle très peu à son comparse parce qu'il sait qu'il va la tuer. Il veut la tuer parce qu'elle est devenue une Indienne. Et tout ça en silence. Bref, Loup de pluie, c'est ça. C'est l'amateur de western va s'y retrouver, mais les autres amateurs de bande dessinée, le lecteur qui est avide de bonnes histoires, avec une belle complexité dans l'histoire, que tous les récits s'enchaînent, là, de tout ce que j'ai parlé, là, vont s'y retrouver, et c'est magnifique. Pellegrino signe encore un magnifique album, coloré, vivant. Vous allez tellement aimer ça.
Et j'ai l'impression que tu vas te mordre d'impatience en attendant le tome 2.
Je suis déjà dans la porte de la librairie à attendre ça ouvre pour pouvoir acheter le tome 2. Voilà.
Alors ça, c'est le coup de cœur, donc vraiment, côté western, donc de Marco Duchesne, donc Loup de pluie, de Jean Dufaux et Ruben Pellegrino chez Dargo. Voilà. À acheter si on aime la BD ou le western, ou les deux.
Voilà.
Voilà. Ben Marco Duchesne, merci beaucoup.
Merci, il faut que j'aille nourrir mon cheval.
On se dit à dans 2 semaines. Et vous, chers auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine. Une belle émission, comme à l'habitude, qu'on vous prépare pour la semaine prochaine. Notamment, Mini Kim sera avec nous pour parler de son album Quête. Plusieurs collaborateurs également de passage. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine et une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.